VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour, nous sommes le vendredi 30 mars 2018, le monde aujourd'hui démarre sur VOA Afrique. Bienvenue à l'écoute, en votre compagnie, Jacques Aristide.
Et Anne Albertson.
À la une ce matin, Anne.
Au moins 8 morts dans un attentat suicide dans l'est de la Libye.
Procès d'anglophones au Cameroun, un avocat demande au président Biya d'ordonner l'arrêt des poursuites alors que la crise s'aggrave.
L'État camerounais a été déséquilibré. Nous sommes passés de la révolte civile à la résistance armée.
Washington suspend les avantages commerciaux sur les vêtements importés du Rwanda.
Moscou expulse des diplomates américains et ferme le consulat des États-Unis à Saint-Pétersbourg.
Sans oublier vos rubriques habituelles, la Minute Éco et la page sport.
En Libye, au moins 8 personnes, dont des civils, ont été tuées et 8 autres blessées hier soir dans un attentat suicide contre un barrage de sécurité dans l'est du pays. Jean-Roger Bion.
Un kamikaze a fait exploser son véhicule à un barrage tenu par des forces loyales au maréchal Haftar à l'entrée est de la ville d'Ajdabia à l'est de Tripoli. C'est ce qu'a indiqué le général Fawzi Al-Mansouri, un haut responsable local de sécurité. Selon lui, il y a des civils parmi les morts et les blessés. Les victimes civiles étaient de passage au moment de l'attaque qui n'a pas été revendiquée. Jusqu'ici, a-t-il fait savoir, ajoutant aussi que le véhicule transportait une lourde charge explosive. Il s'agit de la deuxième attaque du genre en moins d'un mois dans cette région. Un premier attentat suicide revendiqué par le groupe État islamique avait fait 3 blessés le 9 mars au sud d'Ajdabia. Malgré la perte du fief de Sirte, dans le nord du pays, en décembre 2016, les djihadistes restent actifs, notamment dans le centre et le sud de la Libye, pays déchiré par des luttes de pouvoir et miné par une insécurité chronique depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011.
Libye toujours, le maire de Tripoli a été libéré hier soir après plusieurs heures de détention dans des circonstances confuses. Selon le conseil municipal, Abdelraouf Hassan Betelmal, maire de la capitale libyenne depuis août 2015, avait été enlevé chez lui dans la nuit de mercredi à jeudi par un groupe armé inconnu. Le bureau du procureur général a toutefois indiqué plus tard que le maire était en état d'arrestation et interrogé par la police. Ce bureau n'a toutefois pas donné de détails sur les accusations qui pèsent sur le maire, ni sur les circonstances de son arrestation, mais une source des services de sécurité a précisé qu'il avait été arrêté dans le cadre d'une affaire de corruption. Le conseil municipal a dénoncé dans un deuxième communiqué une tentative de brouiller la vérité sur l'enlèvement et de tromper l'opinion publique. Il a affirmé que le maire ainsi que 2 de ses enfants avaient été agressés lors de l'enlèvement.
Au Cameroun, maître Emmanuel Sim, avocat de plusieurs militants, accusé d'être impliqué dans les troubles qui secouent les régions anglophones depuis novembre 2016, demande au président Paul Biya d'ordonner l'arrêt des poursuites judiciaires contre ses clients. Un appel lancé après un nouveau report hier du procès à Yaoundé de certains d'entre eux, dont l'animateur Mancho Bibixi. Plus de précisions avec Irénée Herman Humbo.
L'audience de 8 accusés dont l'un des leaders de la contestation anglophone, Mancho Bibixi, a été ajournée au 13 avril. Dans une affaire parallèle jugée hier au tribunal militaire de Yaoundé, un autre anglophone a été déclaré coupable d'apologie de terrorisme, sécession et hostilité contre la patrie. Sa peine sera prononcée le même jour annoncée pour l'ouverture du procès de Mancho Bibixi. Maître Emmanuel Sim, avocat des accusés, invite cependant le président Paul Biya à intervenir pour ordonner l'arrêt des poursuites judiciaires engagées contre les anglophones. Maître Sim précise que la crise anglophone est politique et ne peut avoir qu'une solution politique. Selon lui, c'est la seule façon de ramener la paix dans les deux régions anglophones. Rappelons qu'en août 2017, le président Biya avait déjà décrété l'arrêt des poursuites contre certains leaders anglophones arrêtés dans le cadre de la contestation à la fin 2016.
Le président américain Donald Trump a décidé de suspendre les avantages commerciaux sur les vêtements importés du Rwanda. Ces avantages étaient accordés dans le cadre de l'AGOA en rétorsion aux barrières douanières sur les vêtements et chaussures recyclées américains. Des détails avec Eddie Isango.
Le président Trump estime qu'une suspension de ses avantages plutôt qu'une sortie du Rwanda de l'AGOA pourrait permettre de poursuivre les discussions dans le but de restaurer l'accès au marché rwandais aux produits américains, selon un communiqué du représentant américain du commerce. La décision n'exclut pas le Rwanda de l'AGOA. L'administration Trump a décidé de mener une enquête sur le Rwanda, mais également sur la Tanzanie et l'Ouganda en mars 2017, à la demande de l'Association américaine des textiles d'occasion et recyclés. L'association dénonçait l'imposition des droits de douane sur les exportations américaines de vêtements et chaussures d'occasion. Le Rwanda a interdit toute importation d'habits usagés sur son sol. La Tanzanie et l'Ouganda ne sont pas frappés par la décision parce qu'ils ont pris des mesures pour éliminer les droits de douane prohibitifs.
Au Mali, un incendie d'une rare intensité a détruit hier un grand marché à Kolikoro, la deuxième région du pays. C'est un camion-citerne qui ravitaillait une station d'essence située en plein cœur du marché de Nara qui a pris feu, les flammes se répandant rapidement au commerce qui y était installé. On ne déplore pas de pertes en vie humaine. D'importants dégâts matériels ont toutefois été enregistrés. Modibo Keïta, animateur à Radio Dani FM de Nara, nous en dit davantage.
Aux alentours de 12h30 en temps universel, il y a eu un incendie à Nara. Plus précisément, le feu a commencé à partir de 12h30 qui a été occasionné par un camion-citerne rempli d'essence qui faisait du ravitaillement au milieu du marché, puisqu'il y a une station d'essence au milieu du marché même de Nara. Et cette station aussi est entourée par des magasins, des boutiques de vente, également des cyber, ainsi que des salons de coiffure. Le marché en totalité qui a été réduit en cendres, ainsi que des boutiques de vente de pièces, des garages de réparation, des motos. Il y avait aussi des véhicules 207, ainsi que des véhicules 4x4 qui ont été totalement réduits en cendres. Il y a une famille aussi qui est à quelques 40 mètres du marché, qui aussi a été totalement réduit en cendres.
C'est pas quand même un incendie criminel?
Non. C'est pas un incendie criminel. C'est le camion citerne qui était là pour le ravitaillement. D'habitude, ils le font dans la nuit. On a constaté que le ravitaillement a été effectué en pleine journée. Au milieu du marché de Nara, il y a également des dames qui vendent. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont dit que c'est le feu-là qui a occasionné l'incendie. Certains aussi disent que c'est le bouchon du camion citerne qui a touché le ciment et qui a déclenché le feu. Chacun est en train de dire sa version.
Des propos recueillis par Modibo Dembélé.
Au Nigeria, le chef de l'État, Muhammadu Buhari, a effectué hier sa première visite officielle à Lagos, à moins d'un an de la présidentielle prévue en février 2019. Lagos, c'est le poumon économique du pays où la campagne électorale est déjà dans tous les esprits. Après l'inauguration d'une vaste station de transport public, le président a passé plusieurs heures au colloque organisé en l'honneur de Bola Tinubu, ancien gouverneur de Lagos et poids lourd du parti au pouvoir. Buhari, qui a passé de longs mois à Londres pour se faire soigner d'une maladie non révélée au public l'an dernier, voyage rarement à l'extérieur d'Abuja, la capitale fédérale, et n'a visité que quelques-uns des 36 États du Nigeria ces trois dernières années.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La guerre des sanctions semble à nouveau enclenchée. Moscou a annoncé hier l'expulsion de 60 diplomates américains et la fermeture du consulat des États-Unis à Saint-Pétersbourg. Sanctions adoptées en riposte aux mesures équivalentes prises par Washington après l'empoisonnement d'un ex-agent russe en Grande-Bretagne. Mais les États-Unis ont aussitôt laissé planer la menace d'une contre-riposte. Morgane Guériec.
Ces personnes ont été déclarées persona non grata pour leurs activités incompatibles avec leur statut diplomatique. Elles doivent quitter le territoire russe d'ici le 5 avril 2018, selon les autorités. Ces mesures répondent à l'expulsion par les États-Unis de 60 espions russes et à la fermeture du consulat russe à Seattle, dans le cadre de mesures de rétorsion après l'empoisonnement, le 4 mars, de l'ex-agent russe Sergueï Skripal et de sa fille Yulia sur le sol britannique. Les États-Unis ne sont pas les seuls visés par ces mesures de représailles. Au total, plus de 140 diplomates russes en Europe, en Amérique du Nord, en Ukraine ou en Australie ont été expulsés en soutien à Londres, qui accuse Moscou d'avoir empoisonné l'ex-espion russe.
Le mur que le président américain veut ériger à la frontière avec le Mexique continue de faire la une aux États-Unis. Le ministre de la Défense, Jim Mattis, a discuté avec Donald Trump de la possibilité que le Pentagone finance ce projet, après le vœu exprimé en ce sens par le locataire de la Maison-Blanche. Le point avec Abdourahman Dia.
Jim Mattis a rencontré le président, mais Dana White, porte-parole du Pentagone, n'a donné aucun détail. Interrogée sur la possibilité que le Pentagone débloque des fonds pour ce projet, elle est restée évasive, disant que la sécurité des Américains était d'une importance primordiale pour le secrétaire à la Défense. Jim Mattis a envoyé lundi aux employés du Pentagone un mémo sur le budget, leur demandant de se focaliser sur le caractère létal et abordable de chaque projet. Dimanche, le président Trump avait tweeté que grâce aux 700 milliards de dollars alloués à la défense en 2019 et aux 716 milliards pour 2020, l'armée américaine était de nouveau riche. Il avait ajouté que bâtir un grand mur frontalier alors que la drogue et les combattants ennemis inondent notre pays, c'est une question de défense nationale. Il a promu promulgué vendredi la loi de financement de l'État fédéral qui prévoit 1,6 milliard de dollars pour construire ou rénover des dizaines de kilomètres des clôtures, loin des 25 milliards qu'il avait réclamés pour la construction d'un mur le long de la frontière avec le Mexique.
Toujours aux États-Unis, des centaines de personnes ont assisté hier aux obsèques sous tension et chargées d'émotions de Stephen Clark, un jeune Africain-Américain tué par des policiers en Californie. Le jeune homme de 22 ans a été érigé en nouveau symbole des brutalités policières aux États-Unis. Il a été abattu le 18 mars dans son jardin des quartiers pauvres de Sacramento par des agents qui le croyaient armé. En réalité, il tenait à la main un simple iPhone. Les policiers, dont un est africain-américain, ont été suspendus.
Au Venezuela, la colère monte après l'une des pires mutineries de son histoire, durant laquelle 68 personnes sont mortes dans un incendie dans un commissariat surpeuplé de Valencia, nouvel épisode d'un fléau qui touche l'Amérique latine. Les Nations Unies se sont dites concernées et ont demandé à Caracas de mener une enquête efficace pour déterminer les causes du drame. Fin de ce journal sur VOA Afrique, vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Et maintenant, tour d'horizon de l'actualité économique en Afrique, il est l'heure de la Minute Éco avec Claire Morin-Gébourg.
Au Burkina Faso, la société civile a annoncé une nouvelle marche pour dénoncer le pillage du foncier par des sociétés immobilières et des acteurs de l'agrobusiness. La coalition des associations pour la défense du droit au logement et la coordination de Ouagadougou de la coalition nationale contre la vie chère dénoncent le silence complice des autorités burkinabées. La Banque africaine de développement veut lancer un forum pour promouvoir la pratique des affaires en Afrique. L'AIF, ou Africa Investment Forum, veut être dédié à la promotion des réglementations favorables aux investissements, ainsi qu'à l'éthique et à la pratique des affaires en Afrique. À long terme, il se veut être un tremplin pour stimuler la transformation économique du continent africain. Dans un rapport intitulé « Construire l'avenir de l'Afrique », l'IFC, la filiale de la Banque mondiale, recommande de développer les partenariats publics-privés et de renforcer les marchés financiers afin de combler le déficit en infrastructures du continent, alors que les marges de manœuvre budgétaires des gouvernements sont de plus en plus limitées.
Sans plus tarder, nous passons au bulletin sportif que nous présente ce matin Yacouba Ouédraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Sébastien Minier a quitté son poste de sélectionneur du Congo.
Tout à fait, l'ancien adjoint de Claude Leroy a résilié son contrat d'un commun accord avec la Fédération congolaise de football. Une rupture de contrat qui intervient au lendemain de la victoire des Diables Rouges contre la Guinée-Bissau en amical 2-0. Sébastien Minier dit être fatigué du manque d'organisation. Dernier épisode en date, le stage à Paris la semaine dernière avec l'annulation dans un premier temps du match contre la Guinée-Bissau et le coup de gueule de Thievi Bifouma qui a quitté ses coéquipiers en plein stage pour dénoncer les conditions d'organisation. Sébastien Minier avait pris les rênes des Diables Rouges en mars 2017.
Au Gabon, les élections à la Fédération de football ont été reportées.
Et oui, Jacques, initialement prévues pour le 31 mars, les élections à la FEGAFOOT auront finalement lieu le 21 avril. Pas de changement parmi les candidatures déclarées. 5 candidats sont en lice, dont le sortant Pierre-Alain Mougengui. Les autres prétendants sont Blanchard Andoum, Jérôme Effong Nzolo, Basco Alabafal et Placide Xavier Bourdette. La campagne électorale s'ouvre le 3 avril et se referme le 20, puis place aux élections le 21 avril à Lambaréné.
Moutinho prolonge jusqu'en 2020 avec Monaco.
Le milieu de terrain international portugais, 31, a prolongé son contrat avec l'AS Monaco jusqu'en juin 2020. Arrivé en 2013, en même temps que Radamel Falcao et James Rodriguez, avec qui d'ailleurs il a évolué à Porto, Joao Moutinho est désormais lié à l'AS Monaco jusqu'en 2020, tout comme son capitaine Falcao et son entraîneur Leonardo Jardim. Sous le maillot de Monaco, Moutinho, vainqueur de l'Euro 2016 avec le Portugal, a été champion de France en 2017 et a disputé 211 matchs pour 11 buts et 39 passes décisives, toutes compétitions confondues. NBA, pour terminer, avec vous Jacques, quelques résultats de la nuit dernière.
Oui, Yacouba, les Spurs de San Antonio ont vaincu le Thunder de Oklahoma City par 103-99. Ailleurs, Washington 92, Détroit 103, Chicago 92, Miami 103, Indiana 106, Sacramento 103.
Le Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant d'aborder notre tranche magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide avec vous sur VOA Afrique, émettant de la capitale américaine. Nous revenons sur la crise anglophone au Cameroun. Les deux régions concernées, le sud-ouest et le nord-ouest, sont secouées depuis plus d'un an par des troubles sur fond de revendications sociales et économiques vis-à-vis de l'élite francophone qui dirige le pays. La situation sécuritaire s'est considérablement dégradée depuis la proclamation unilatérale d'une république indépendante, l'Ambazonie, le 1er octobre 2017. Depuis, les violences se sont transformées en conflits de basse intensité entre l'armée et les séparatistes, avec des attaques ciblées contre des symboles de l'État et des enlèvements. Mi-mars, deux Tunisiens et deux Camerounais ont été enlevés dans le sud-ouest. Notre correspondant à Yaoundé, Manuel Jules Ntap, nous propose ce matin ce gros plan.
Un préfet blessé par balle, un responsable ministériel tué, un otage tunisien abattu par ses ravisseurs, une quarantaine de personnes enlevées, certaines relaxées. Ces actes sont attribués aux séparatistes anglophones dans les deux zones du pays. Pour le politiste Aristide Monod de l'université de Yaoundé 2, la crise dite anglophone a changé de variable.
L'État central est en situation de reconquête de ses territoires. L'État camerounais a été déséquilibré. Nous sommes passés de la révolte civile à la résistance armée classique et asymétrique.
Pourtant, la nomination d'un anglophone, Paul Atangandi, le 2 mars dernier au prestigieux poste de ministre de l'administration territoriale, avait été présenté comme annonciateur de la calme. Avis partagé par ces deux Camerounais anglophones résidant à Bamenda.
Pour la première fois dans l'histoire du Cameroun qu'une anglophone a pris cette poste-là. Avec ça, là, ça va résoudre tous les problèmes qui nous dérangeaient.
Le président Paul Biya a toujours pris soin des anglophones. La nomination de ce ministre de l'administration territoriale le témoigne et va régler la crise.
C'est quelques jours après la nomination de Paul Atangandi que les séparatistes ont porté de sérieux coups à la sécurité du pays. Une coïncidence des faits qui a valeur de message envoyé au président Paul Biya. Aristide Monod, politiste.
L'opération des enlèvements a été un moyen de prouver qu'en fait, ces dernières mesures sont loin d'être opérantes sur le terrain. Il s'agit d'un rejet global de toutes les dernières mesures prises par l'État central pour essayer de solutionner la crise anglophone.
Pour la première fois, certains groupes armés opérant en zone anglophone ont fait des demandes de rançon pour libérer les otages. L'État camerounais devrait donc vite agir pour briser la tendance à la radicalisation actuelle, pense Dr Nick Ngwangwa, homme politique et directeur de l'université Saint-Louis à Bamenda.
On doit vite rentrer à cette table de dialogue-là, un dialogue avec de respect. Parce que lorsqu'on parle dialogue, les autres disent on va dialoguer avec qui ? Les séparatistes, mais il faut dialoguer avec tout le monde, parce que c'est tout le monde qui se sent laissé.
Pour la tenue des dernières élections sénatoriales, l'armée camerounaise a dû mobiliser les gros moyens pour assurer la sécurité des deux zones anglophones, Yaoundé et Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Une autre nouvelle qui continue de susciter des commentaires. Vous le savez, en République démocratique du Congo, la justice a annoncé avoir ouvert une information judiciaire pour usurpation de nationalité contre l'opposant en exil Moïse Katumbi. Il est candidat déclaré à la présidentielle du 23 décembre prochain. Depuis la publication d'un article de la revue Jeune Afrique révélant qu'il avait acquis la nationalité italienne, l'image d'un passeport portant le nom de Moïse Katumbi Damiano est largement partagée sur les réseaux sociaux. La RDC ne reconnaît pas la double nationalité. Pour Olivier Kamitatou, son porte-parole, Moïse Katumbi est victime d'un acharnement de la part du régime de Joseph Kabila. Pour une analyse, et qui Abadou s'est entretenu avec l'avocate d'origine congolaise Bibi Moussafiri, spécialiste en droit d'immigration basée aux États-Unis.
La double nationalité, en général, cela dépend de chaque pays. Il y a des pays qui ont des législations qui interdisent, donc c'est une prohibition. Et il y a des pays qui, tout simplement, ne donnent pas effet à la double nationalité. Donc, vous pouvez être Congolais, et si la législation ne dit pas que vous êtes complètement interdit de prendre une autre nationalité, vous pouvez la prendre, mais simplement, elle n'aura pas effet dans votre pays. Ça peut être le contraire, où la législation dit que c'est prohibé. Ça veut dire que si vous êtes Congolais et que vous prenez une autre nationalité, à ce moment-là, vous perdez la nationalité congolaise, parce que la Congo n'accepte pas. La législation, tout simplement, ne permet pas. Ça veut dire qu'elle n'a pas prévu la double nationalité. Mais je ne pense pas qu'il y ait une réelle prohibition.
Quels sont les risques pour M. Katumbi ?
D'abord, il y a un article qui, en fait, dit qu'il a eu la nationalité pendant 17 ans, de 2000 à 2017. Ça veut dire qu'apparemment, il n'est plus italien à ce moment-ci. Si cela était dans le passé, ça ne devrait plus avoir de conséquences. L'article, en fait, voulait pouvoir faire savoir qu'en 2016, quand il se présentait comme candidat, il était encore sous la double nationalité. S'il était sous la double nationalité à ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il ne peut pas se réinscrire pour, en fait, avoir un dossier totalement clair. En se présentant comme candidat maintenant, il n'a pas la double nationalité.
Il a derrière lui une condamnation dans l'affaire Stoupi et ça le rendrait inéligible.
La plupart du temps, les gens assument. Ils disent, par exemple, que si vous avez été condamné pour avoir fait telle affaire, est-ce que dans le dossier Stoupi, il a été condamné, oui, mais est-ce que c'est un crime? Il faut savoir. Quelles sont effectivement les dispositions de cette affaire-là par rapport au juge qui a jugé? Vous pouvez être condamné, mais pas nécessairement un crime. Les crimes ont plusieurs degrés. De quel degré de crime? La justice dite sur la place publique et la justice comme une profession légale est totalement différente. Et pour ça, il a plusieurs recours. Il doit pouvoir clarifier ce qui est juridiquement vrai et ce qui ne l'est pas. Quand il a des empêchements réels à se présenter comme aux élections, il a la possibilité de faire les recours nécessaires. Le cas Stupif, par exemple, peut-être qu'il peut faire appel, faire des appels jusqu'en cassation. Et que tant que ces appels ne sont pas épuisés, personne ne pourrait dire qu'il a été condamné parce que l'appel n'est pas encore déterminé.
L'avocate Bibi Moussafiri, spécialiste en droit d'immigration, jointe à New York.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Nous vous en parlions hier au Niger. La justice a ordonné la réouverture de la radio-télévision privée La Bari, fermée dimanche soir par les autorités après une manifestation interdite à Niamey. Cette manifestation contre la loi de finances 2018, qualifiée d'antisociale, avait dégénéré en affrontement avec la police. Le juge a également ordonné aux forces de l'ordre déployées devant le siège de ce média de quitter les lieux. Le ministre de l'Intérieur, Bazoum Mohamed, a accusé la télévision d'avoir notamment appelé les gens à sortir et d'avoir passé un message subversif de révolte. 23 personnes, dont plusieurs figures de la société civile, membres du collectif d'ONG qui a appelé à la manifestation, ont été arrêtées. Irénée Herman Hungbo a joint l'avocat qui représente quelques-uns d'entre eux, Maître Boudal et Fred Mouloud. Nous l'écoutons.
On les accuse d'organisation et participation à une manifestation interdite, complicité de violence, voire de fait, et dégradation des biens publics, et pour avoir provoqué une manifestation par des écrits, affiches et autres.
Des accusations que vous reconnaissez, c'est ça?
Non, mais exactement, j'allais vous dire qu'on leur reproche ce qu'ils n'ont exactement pas fait, parce que je vous fais remarquer que toutes ces quatre personnes ont quelque chose de commun, c'est qu'elles ont été arrêtées à leur service.
La manifestation avait été interdite, mais ils ont bravé l'interdiction. Il fallait quand même s'attendre à des sanctions, non?
Moi, je vous fais remarquer que l'un des acteurs a été arrêté le 25 à 11h du matin. À 11h du matin, il n'y avait pas de manifestation. Il était au niveau des locaux de Alternative Espace Citoyen, devant son bureau. Il a été arrêté. Il était parti rentrer. Il pensait et il continue de croire qu'il a été arrêté parce qu'on a reçu l'ordre qu'il ne rentre pas dans son bureau. Et les autres acteurs ont été en grande majorité arrêtés alors qu'ils étaient en concertation. Donc, ils n'étaient pas des manifestants. Il n'y a pas des infractions par anticipation. Ceux qui voulaient les arrêter auraient dû et surtout pu attendre qu'ils posent des actes. Mais on ne peut pas prévoir des infractions.
Alors, que risque risquent-ils maintenant, puisqu'ils sont détenus dans les geôles de la prison nigérienne?
Oui, ils ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt. Le plus proche d'entre eux est à 5 km de la capitale. Donc, la justice a décidé de les séparer, de ne pas les mettre dans un seul camp de détention. Donc, l'un est à Wallam, l'autre à Filingué, l'un à Tillaberi et un autre à Dakana. C'est à 100 et quelques kilomètres de Niamey avec des voies difficiles. Et c'est difficile même pour nous, leur conseil, d'avoir des contacts permanents avec eux, ce qui est nécessaire. Leur famille, on n'en parle même pas. Je vous fais remarquer que c'est ça notre surprise. Mais bon, on ne peut pas présager de l'intention de ceux qui ont décidé de le faire. Nous respectons la justice.
Vous êtes l'avocat de la radio-télévision La Baria. Est-ce que l'organe a repris ses programmes?
Hier, nous avons saisi le juge de référé. Le juge de référé a ordonné, a constaté d'abord et dit qu'un trouble manifestement illicite. Il a ordonné que les forces de l'ordre qui étaient stationnées quittent et laissent le personnel de la radio-télévision La Baria accéder à leurs locaux. Au moment où je vous parle, jusque-là, c'est le statu quo. L'État du Niger ne s'est pas exécuté.
Maître Bouda Lefred Mouloud était en ligne de Niamey.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Une autre actualité qui retient l'attention cette semaine, pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir, le leader nord-coréen Kim Jong-un a été reçu par le président chinois Xi Jinping. Objectif, préparer sa rencontre avec le président américain Donald Trump. Mais avant ce tête-à-tête tant attendu, Kim Jong-un doit participer à un sommet avec son homologue sud-coréen le mois prochain. Quelle lecture faut-il faire de ces derniers développements? Idriss Fall a joint Ali Sekman, spécialiste de la Corée du Nord, à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales.
C'est un gain diplomatique pour la Chine parce qu'elle coupe l'herbe sous le pied des États-Unis en organisant la première visite officielle à l'étranger de Kim Jong-un. Il ne faut pas sous-estimer les proximités à la fois stratégiques, bureaucratiques et idéologiques entre Pékin et Pyongyang. Certes, Pékin, au cours de l'année écoulée, était mécontent des tests balistiques et nucléaires répétés du voisin nord-coréen, mais c'était une insatisfaction relative. Pékin a toujours été, en tout cas au cours des 5 dernières années, mécontent des exercices militaires conjoints conduits par les États-Unis avec ses alliés dans la région, en premier lieu la Corée du Sud. Pékin se plaint également des opérations de surveillance américaines à proximité de son territoire. Donc il faut bien prendre en compte le rapport de force dans la région. On s'achemine vers une rencontre Trump-Kim Jong-un qui portera bien sûr sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne puisque c'est bien le sujet qui fâche, c'est bien le sujet au cœur des négociations. Mais quelles seront les conditions de cette négociation? À mon avis, le camp des non-alliés, c'est-à-dire la Corée du Nord mais aussi la Chine, vont essayer de négocier cette dénucléarisation.
Qu'en sera-t-il entre les deux Corées? Ce sera la première fois que quand même Kim Jong-un va sortir et rencontrer son homologue sud-coréen.
C'est pas la première fois dans l'histoire des deux Corées, hein, puisqu'il y a déjà eu des rencontres d'État qui n'ont pas donné lieu à une stabilisation de la péninsule, mais il y a déjà eu des rencontres. Bon, si, on va dire c'est inédit sous la période de Kim Jong-un, mais à mon avis, le rapport de force reste. La Chine et la Corée du Nord ont une perception différente de la résolution des tensions de celle de la Corée du Sud et des États-Unis. Les points de clivage sont nombreux. Aujourd'hui, on assiste à une accélération des rencontres tous azimuts et accélération des négociations, accélération du calendrier, mais il est très difficile aujourd'hui d'envisager une résolution imminente des tensions, ou en tout cas un accord entre les deux Corées, compte tenu des divergences existantes et en toile de fond de la rivalité forte entre la Chine et les États-Unis qui pèse sur la résolution de la crise. En tout cas, je pense que c'est cette rivalité qu'il faut prendre en compte lorsqu'on analyse aujourd'hui les rapports de force et le développement des négociations et des rencontres en cours.
On écoutait Ali Sekman, spécialiste de la Corée du Nord à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales.
VOA Afrique vous donne la parole.
Dans un nouveau programme interactif, à votre avis, du lundi au vendredi à 18h TU.
Postez vos questions sur notre page Facebook avec votre numéro de téléphone et partagez votre avis en direct sur les points saillants de l'actualité.
À votre avis,
votre voix sur la voie de l'Amérique.
Pour Point final à ce numéro du Monde aujourd'hui. Anne Albertson a dirigé la mise en onde. Anne qui était également avec nous pour la présentation du journal. C'était John Ellison à la technique. Merci chers amis fidèles de la VOA de nous avoir accueillis chez vous ce matin. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end sur VOA Afrique.